Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour, comment allez-vous, tous mes voeux?
Bah écoutez, merci beaucoup, mes voeux également pour vous et puis surtout des voeux aussi pour que ça baisse enfin les prix. Est-ce qu'on peut l'espérer pour 2024?
Ouais, Bruno Le Maire va pouvoir le dire.
Et cette fois-ci, il aura raison.
Alors bien sûr, ça dépend du résultat des grandes négociations que nous avons tous. Tous les distributeurs en parlent. Il y a des noms qui circulent, des résistances. Il faut fighter pas mal. Mais oui, je pense qu'on va ramener l'inflation alimentaire qui était de 21% sur deux ans. On va le ramener dans la moyenne d'inflation en France. Et je pense que pour l'année qui vient, on n'aura pas plus de 3%, entre 2,5 et 3% sur ces produits qui avaient flambé. Donc ce serait une belle victoire. Il y aura des poches de baisse, il y a des endroits où ça va baisser, parce que les cours de matières premières ont baissé. Mais dans l'ensemble, les industriels ont compris quand même qu'ils avaient fait une belle connerie en voulant tout prendre la mise en deux ans, en trois ans depuis le Covid. Et donc, ils sont devenus plus raisonnables.
Alors, les industriels sont devenus plus raisonnables. On a l'impression, en vous entendant, que cette inflation, elle était due uniquement à eux.
Non, ce serait injuste de dire ça.
En tout cas, qu'ils ont voulu en profiter, quoi.
Ce serait injuste de ne présenter ça que de manière un peu manichéenne. Tout le monde a eu des hausses de coûts. Tout le monde a eu des factures à la hausse. Ce que je trouve, c'est que tout le monde est parti très tard pour les renégocier. Parce que si chacun avait fait son boulot dès le début de l'inflation, s'il n'y avait pas eu un déni d'inflation, on aurait pu moins impacter les consommateurs.
On aurait pu se battre, fighter, comme vous dites. On aurait pu se battre plus tôt.
Exactement. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on est une grande multinationale, on peut étaler les hausses. Après tout, les investissements, ça s'amortit sur 10 ans, sur 12 ans, sur 15 ans. Là, on est allé taper les Français, je trouve, de manière honteuse. Et c'est ce qui fait que sur vos plateaux, je bouillonnais. Je trouvais... C'est un truc tout simple. Pour moi, je suis dans un magasin. Si un salarié, si un collaborateur, si un chef de caisse, un chef de rayon n'est pas capable d'expliquer pourquoi on augmente le prix des pâtes de 40%, vous vous rappelez la hausse, ou l'huile de tournesol de 38%, forcément, ça casse la confiance, ça casse la consommation, ça casse la croissance. Et on a fait ça. Le système a autorisé ça, les parlementaires ont autorisé ça, les politiques ont autorisé ça. Donc maintenant, s'il vous plaît, finissons ce cycle et repartons sur une relation plus confiante avec les consommateurs.
Alors finissons ce cycle, et vous le dites d'ailleurs, c'était à la fois dans les rayons, mais aussi dans les couloirs de l'Assemblée, en quelque sorte, qu'il a fallu se battre politiquement, comme vous dites. Mais d'abord, je voudrais quand même comprendre, vous avez dit qu'on allait revenir enfin à quelque chose de raisonnable. On peut espérer 2,5 à 3% d'inflation sur les produits alimentaires cette année, j'ai bien compris.
Alimentaire et de consommation courante, il y a encore
tout,
autant d'alimentation.
Tout ce qui est le panier...
Hypermarché.
Voilà, mais ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont baisser.
Alors, il y en a qui vont baisser.
Ils vont juste moins monter.
La plupart vont juste moins monter. Mais il va y avoir quand même des baisses.
Vous avez évoqué des poches de baisse.
Des poches de baisse.
Lesquelles ?
Parce qu'il y a plusieurs endroits où ça se négocie, où ça s'achète. C'est pas tout en France. Par exemple, tout ce qu'on appelle le grand import. Toute cette zone Indo-Pacifique où, on reviendra là-dessus, vous en avez parlé avec un écologiste il y a pas longtemps, Jean-Marc...
Jean Covici.
Dans le cadre d'une politique de relocalisation, il va falloir probablement changer ça. Mais aujourd'hui, les jouets, le textile, viennent de là-bas. Or, le prix des containers, toute chose par ailleurs étant égale, le prix des containers a été divisé par 4, par 5. Donc là, on va avoir des baisses sur les productions de cette aire-là, de cette zone géographique. Ensuite, il y a des marchés qui se sont retournés. Le marché des céréales s'est retourné. Le marché des cafés s'est retourné. Donc, normalement, même en application de la loi française, pour ceux qui se négocient en France, on va avoir des baisses sur des farines, sur des pizzas, sur les pâtes. On va avoir des baisses.
Voilà un rayon où ça va franchement baisser.
Franchement, je ne sais pas de combien, mais ça va baisser. D'accord ? Après, il y a le rapport de force avec industriels et distributeurs pour tout ce qui est les grandes multinationales. Il y en a qui ont pris des 20% l'année dernière, il y en a qui ont pris des 30%. Donc cette année, on leur demande de revenir en arrière. C'est ce qui fait que vous entendez ici ou là des noms qui sont cités.
Bon, on va y venir, bon. Michel-Édouard Leclerc. D'abord, est-ce que vous continuez à vendre du Pepsi ?
Je continue à vendre du Pepsi. Je ne désespère pas de gagner notre bataille de négociation. Mais il faut
attendez,
quand
je dis Pepsi, hein, il faut bien expliquer les choses. Carrefour a décidé de ne plus vendre tous les produits autour de PepsiCo, c'est-à-dire non seulement Pepsi, ouais, mais aussi tous les produits dérivés, parce qu'ils estiment que Pepsi demande des prix beaucoup trop élevés. Ils leur demandent à eux, mais pas à vous.
Si, mais on va y arriver. Alors, il faut
vous
dire que...
Si, mais vous estimez en tout cas pas que ce soit le chantage qui vous fasse gagner le rapport de force. Vous n'en avez pas besoin.
Je ne vais pas faire ma sainte nitouche. On l'a fait, ça, dans les années précédentes.
On se souvient de votre guerre avec Ricard, par exemple.
Avec Ricard, autrefois avec Coca-Cola, etc. En fait, il y a rarement, je trouve, je ne dis pas ça pour tirer dans le dos de Carrefour ou de ceux qui le font, je trouve qu'on ne s'en sort jamais bien, ni l'un ni l'autre, ni le distributeur, ni l'industriel. En l'occurrence, cette année...
Enfin, ils en ont fait vraiment de la com', c'est-à-dire que dans les rayons de Carrefour, c'est pas juste que vous n'avez plus de Pepsi, c'est qu'à la place où vous aviez du Pepsi, vous avez un petit panonceau avec marqué « Nous avons refusé sciemment de vendre du Pepsi parce qu'ils vous demandaient trop cher ». Donc en gros, on vous prend à témoin, vous consommateurs, vous qui poussez votre caddie dans le rayon, pour vous dire voilà ce qu'ils vous demandent et nous n'accepterons pas.
Oui, en l'occurrence, ça m'arrange bien que ce soit d'autres qui jouent le méchant, pour une fois... Ça sera pas moi le méchant, ça sera pas Leclerc le méchant.
Non, on sent bien que vous répartissez un peu les rôles. Mais enfin, cette année, visiblement, vous êtes du côté des gentils.
Voilà.
Ou en tout cas des moins méchants.
Alors, si vous voulez bien, on va en profiter. Non, mais la différence, c'est que Leclerc est le seul distributeur en 2023 à avoir fait de la croissance en volume. C'est-à-dire que...
Ça n'était pas la déconsommation dont parlaient certains de vos concurrents.
Leclerc a cartonné, parce qu'avec notre politique de prix... on a eu 1 million de consommateurs supplémentaires. Donc nous avons des arguments pour dire aux fournisseurs, vous voyez, vous aviez déconné, là, avec des prix moins chers, vous pouvez, vous aussi, refaire du chiffre d'affaires, de la croissance. Et donc je pense que cet argument va l'emporter sur le rapport de force.
Ou enfin, vous dites que vous avez fait moins cher, mais alors ce matin, si on ouvre les journaux, et notamment un journal de chez vous, hein, vous êtes breton, Ouest France, grande publicité, 2 pages de Lidl, qui dit « Nous avons recomparé encore, et on est les moins chers encore ». Et ils estiment qu'ils sont 3,6% moins chers que vous, Leclerc.
Mais
qui dit vrai?
Ben, dans sa publicité, il le dit forcément, parce que sinon sa publicité, elle serait fausse. Et donc, c'est vrai
que... Il dit prix moyen comparé sur 296 produits.
Comme vous avez pu le voir, on est 2 ou 3 distributeurs à se scotcher au meilleur des intérêts des consommateurs. Lidl ne fait pas partie des mauvais. C'est souvent Lidl est le 2e magasin des clients d'un Leclerc ou d'un Intermarché. Il a très peu de produits comparables avec nous. Il a d'ailleurs un assortiment plus faible avec des surfaces plus petites. Mais c'est bien, même pour nous, qui sommes globalement les moins chers sur 30 000, 40 000 articles, de se faire challenger.
Oui. Non mais j'avoue que c'est assez surprenant parce qu'en fait cette pub elle est pas très sympa pour vous hein. C'est quand même une pub qui est justement dans la mise en concurrence.
C'est Nadal Federer. Il y a des fois c'est lui qui gagne. En général c'est nous. Je sais plus d'ailleurs lequel des deux gagnait.
Je saurais pas vous dire non plus. Mais enfin, disons que c'était un coup l'un, un coup l'autre. Mais ça veut dire quand même Michel-Edouard Leclerc que vous considérez que c'est une saine émulation.
Oui, moi je crois à la concurrence et c'est ça ce qui m'a opposé à la classe politique au Parlement. Pardon. Aux parlementaires qui ont voté les lois anti-concurrence, comme les a déjà qualifiés d'ailleurs le président de l'autorité de la concurrence, c'est ça qui nous a empêchés d'avoir une saine concurrence. Les industriels doivent redevenir concurrents entre eux, les distributeurs sont très concurrents en France, et il faut lever les lois qui sont restrictives de concurrence.
Vous voyez Danone, vous? Vous leur parlez?
Danone, bien sûr.
Parce que votre confrère et concurrent, donc Dominique Schellcher des magasins U, disait mercredi, ici même sur BFM, qu'il n'avait toujours pas vu Danone. Alors ce qu'on dit vu Danone, ça ne veut pas dire effectivement se voir ou s'appeler, ça veut dire négocier, ça veut dire se mettre autour de la table, alors que la deadline, vraiment le compte à rebours, c'est jusqu'au 31 janvier. Et il disait, Danone ne nous répond pas pour sans doute jouer une sorte de contre-la-montre et devoir imposer ses hausses à la dernière minute. Ça n'est pas votre cas. Vous négociez avec Danone.
Oui, mais tous les grands industriels jouent la montre. Ils ne sont pas pressés de signer avant le 31 janvier. Alors d'abord, il faut vous dire que le législateur a mis des dates de négociation en pleine vacances. Enfin, chez les industriels aussi, on fête Noël, chez les distributeurs aussi. Donc, on va, c'est là, maintenant, là, ces deux dernières semaines.
C'est maintenant que ça se passe.
C'est maintenant que ça se passe. La dernière semaine, en général, ce sont les services juridiques qui regardent si tout ça, ça rentre bien dans les cases de la loi française. On a une loi pas possible, hein. C'est les services juridiques.
Mais ça veut dire que les 10 jours qui viennent, c'est vraiment le dur des négociations. C'est maintenant que se décident les prix de l'année qui vient. Michel-Édouard Leclerc, prenons l'exemple donc de Danone. Danone, il vous demande combien de hausse ?
Je ne sais pas.
Vous faites semblant de ne pas savoir.
Non, je sais à quel objectif je veux arriver et je ne sais pas jouer au poker. Je ne sais pas jouer au jeu comme ça de saloon. Mais ce que je sais, c'est à combien je veux arriver.
Et vous voulez arriver à combien ?
Et je veux arriver à être d'abord le moins cher de France. Déjà, je négocie pour Leclerc, on négocie pour Leclerc. Ce sont des patrons de magasins chez moi qui négocient pour leurs magasins. Donc ça, on veut être les moins chers. Mais en plus, nous voulons que la croissance reparte. Et la croissance, la moitié de la croissance, c'est la consommation. Hein ? Et donc,
Vous m'avez pas dit à combien ?
Non.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2% ?
Bon, je vais demander de la déflation.
Ah, vous allez même demander du moins 2 ?
Oui.
Donc Danone, là, ça y est, vous vous apprêtez à lui demander moins 2.
Là.
Sur l'ensemble des produits Danone, hein, ça veut dire...
Je vous dis pas
et
ce qui va arriver.
Vous pensez que c'est envisageable ?
Oui. Bah, celui qui va au combat et qui n'y croit pas, ça ne marche pas.
Donc ça veut dire que dans les rayons, le résultat, c'est que pour les Français qui achètent leur yaourt, à partir du mois quoi, de février, mars, il pourrait y avoir des prix à la baisse ?
C'est ce que je vais demander.
Avec des prix à la baisse dès février, mars ? Je vous repose la question.
Vous viendrez faire un stage chez Leclerc.
Tout à fait, je ne demande que ça.
Je ne vais pas le dire sur un plateau. Je ne vais pas aller dire à Carrefour combien je demande. Je ne vais pas aller dire à Thierry Cotillard
d'Intermarché. Enfin, j'ai deviné. Mais Michel-Édouard Leclerc, ça veut quand même dire qu'effectivement, il y aura une répercussion pour le consommateur. Je vous repose la question du timing. Est-ce qu'on peut espérer que la différence, que les baisses de prix soient visibles sur l'étiquette quoi, dès février ?
Aux premiers achats. Les contrats, une fois signés... Ça ne marche que pour les achats qui suivent. On est d'accord.
Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire le février, jour où le camion arrive pour livrer, c'est quoi ? C'est février-mars ?
Oui. Février-mars, et puis jusqu'à l'été.
Donc, vous allez écouler les stocks au prix d'avant.
Oui.
Mais enfin, dans les produits frais, ça s'écoule vite. Et ensuite, dès les premiers stocks de l'année d'après, on est bon.
Oui.
Donc, on peut espérer effectivement qu'au moins ces produits-là, ils baissent. Quels sont les autres grands distributeurs, grands industriels sur lesquels vous espérez pouvoir passer à des prix négatifs ?
Tout ce qui est non alimentaire, le papier est reparti à la baisse, le plastique est reparti à la baisse, c'est moins clair, mais quand même. Tout ce qui est donc jouet, ce qui est textile est à la baisse, les blancs sont à la baisse, là, février, mars... Les jouets de l'année prochaine, je les sens à la baisse, sauf s'il y a un autre conflit dans le monde, hein, mais on va les acheter au premier trimestre.
Cette guerre au Yémen, je fais quand même une petite parenthèse, mais enfin, vous avez parlé tout à l'heure de ces grands containers. On sait qu'une grande partie d'entre eux, de ces méga navires, passent par la mer Rouge et ensuite par le canal de Suez. Oui. Un navire français a été pris pour cible la semaine dernière par le Yémen, qui est allié de l'Iran. Est-ce que ça peut avoir des conséquences malgré tout ? Est-ce que c'est une source d'inquiétude, en tout cas ?
Alors, les transporteurs ont commencé à annoncer à leurs actionnaires qui seront obligés d'augmenter le prix des conteneurs. Donc, il faut en tenir compte. Vous savez, ce n'est pas dans un seul sens. Nous, on approvisionne à partir du Havre, à partir de la Normandie. On approvisionne les centres Leclerc de La Réunion. Système U, ça doit être la même chose
donc
aussi.
Donc, il passe aussi dans l'autre sens, ça que vous voulez dire.
Voilà. Alors après, il faut quand même qu'ils n'en profitent pas comme pendant le Covid. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est plus long de passer par l'Afrique du Sud. Mais du coup, ils ne payent pas de droits aussi pour passer le canal de Suez.
Donc, ce n'est pas du simple au double.
Et puis, ce n'est pas du simple au double. Parce qu'en plus, quand on est en Afrique du Sud, on tire un trait pratiquement droit pour aller vers Madagascar et La Réunion. Donc, on ne remonte pas non plus. Ce n'est pas un si grand détour. Ceci dit... Les assurances, ça va coûter plus cher, ça je reconnais. Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Ouais. Michel-Édouard Leclerc, il y a donc les grands industriels et il y a les PME. Pour les PME, d'ailleurs, votre date butoir est un peu plus tôt. Si on reste encore un peu sur les très gros industriels, est-ce qu'il y a certaines marques, malgré tout, où vous vous dites à un moment, on va peut-être les boycotter, c'est-à-dire on va peut-être quand même les laisser tomber. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là ?
On pourrait le faire.
Peut-être pas dans ce mode combat que nous a montré Carrefour, mais tout simplement parce que vous considérez que les consommateurs suivront plus.
La poche de résistance à la baisse vient beaucoup des multinationales, des produits d'entretien, de santé, de beauté, des boîtes dont les marques sont rassemblées derrière Procter, Unilever, L'Oréal et tout ça. Mais je pense que vraiment, ils savent qu'on a fait un carton sur leur marque en les vendant moins cher. Donc en 2023, nous leur proposons de rester dans la course en 2024. Franchement, on est l'enseigne qu'il leur faut pour...
Là, vous êtes en train de vendre votre bout de gras, là.
Ben oui.
Voilà, parce que vous vous dites, ils nous écoutent, ils nous regardent,
absolument.
Et c'est aussi une manière de faire, ouais, de faire la négo. Vous disiez,
je suis franc, hein.
Mais tout à fait, j'ai bien compris. Mais d'ailleurs, je ne suis pas dupe. Ce que je veux simplement dire, Michel-Edouard Leclerc, c'est que une des choses importantes, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que font les Français et le comportement des Français, c'est que lorsqu'en septembre, on a le patron de Carrefour qui a dit, on est face à une déconsommation. C'est, oui, un mot qui, pour vous, vous paraît tout à fait excessif,
oui, oui,
et que vous n'avez pas du tout observé. Les Français n'ont pas déconsommé.
Au moment où Alexandre Bompard disait, le patron de Carrefour disait ça, moi aussi j'avais peur de la récession, d'accord ? Et il y a des signes extérieurs, des dérives de consommation, des non-consommations, qui me faisaient peur pour janvier, février, mars. Mais si on arrive là à bien négocier, je pense que la consommation sera au rendez-vous de la croissance. Vous savez, la consommation, c'est la moitié... La valeur de la consommation en France, c'est la moitié du PIB français.
Donc vous estimez que de ce point de vue-là, vous avez un rôle politique.
On a un rôle
politique.
Vous avez
un rôle pour la France.
La consommation, c'est politique. C'est ce qu'on n'a pas compris au Parlement, tous ces députés qui ont voulu scotcher les distributeurs, théoriquement pour faire plaisir aux agriculteurs. Dans la réalité, ils étaient aussi à la main des lobbies, de l'agroalimentaire et tout ça. En fait, aujourd'hui, il faut bien se dire que la manière dont les gens consomment, la manière dont ils ressentent le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français dans tous les sondages, Le Parisien encore ce week-end,
la
consommation, c'est politique.
Le d'accord pouvoir d'achat est la priorité numéro un devant
voilà
toutes les
et
autres
si pour
les
Français. Voilà, s'il y a un nouveau gouvernement, s'il y a des nouveaux ministres, la consommation, c'est politique. Gagner, c'est faire plaisir aux consommateurs.
Donc vous regardez, comme les autres, vous vous demandez ce qui va sortir du chapeau d'Emmanuel Macron, si tant est que quelque chose sorte. Mais enfin, je veux dire, si remaniement il y a, si c'est aujourd'hui, si c'est hier, si c'est demain, ça change quelque chose pour vous.
Mais moi, vous voyez, ce qui m'épate, c'est que les mêmes vous disent « on a eu les gilets jaunes pour 10 centimes ou 5 centimes sur les carburants », mais pour autant, il n'y a pas de discours consumériste. Alors, Olivia Grégoire, Bruno Le Maire sont exceptionnels dans leur investissement personnel, mais dans la politique gouvernementale aujourd'hui, il n'y a pas une politique consumériste. Et c'est pour ça les distributeurs aujourd'hui ont cette popularité. C'est que nous investissons, nous venons sur les plateaux, nous défendons l'acte de consommation. Alors évidemment, la consommation va devoir changer demain pour l'écologie, pour être plus vertueuse, etc. Mais ça tire la croissance. L'économie française a besoin des distributeurs et les distributeurs aujourd'hui sont prêts à jouer le jeu.
Et pour les PME, je le disais, ça s'arrête pour le coup dans 8 jours.
Oui.
Donc vous avez déjà, j'imagine, ça y est,
oui,
les prix, tout est arrêté. Les PME françaises, les biscuiteries, les charcuteries, est-ce que ça, les prix, là encore, sont à la baisse ?
Ouais, les PME sont beaucoup plus raisonnables parce que d'abord, à partir du moment où les grandes marques nationales ont pris trop de prix, ont été trop chers. Les PME, finalement, ont préféré vendre moins cher. Leurs demandes ne sont pas déraisonnables, elles sont transparentes. Les PME françaises sont transparentes, contrairement aux grandes entreprises internationales. Et donc, aujourd'hui, que ce soit pour les valeurs agricoles qui sont protégées, que ce soit pour la hausse des coûts agricoles dont on doit tenir compte, ou que ce soit pour les PME, on joue la carte française, la préférence française. Là-dessus, pas de contestation.
Et la réduflation, c'est-à-dire qu'on nous a parlé de la shrinkflation,
oui,
qui était donc cette idée que vous mettez moins de produits, moins de chips dans le paquet de chips. Hein, en gros, ça, on a fini par bien comprendre. Ça,
c'était les
industriels. Hein, c'était pas vous. Vous les mettiez dans les rayons, mais c'était pas vous. En revanche, on parle désormais d'une réduflation, c'est-à-dire que en fait, au lieu de faire des paquets avec 10 Kiri ou 10 Babybel, on va en mettre 8. On va l'assumer. Ce sera marqué sur l'étiquette, parce que les gens veulent payer un peu moins chaque semaine, donc ils préfèrent acheter 3 Babybel, 4 Babybel, plutôt que devoir acheter la boîte directement, ouais, de 10. Est-ce que ça, vous le voyez ? Est-ce que ça, vous l'encouragez ?
Alors, c'est assez marginal. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais par rapport à la...
Acheter en petite quantité.
Oui. Par rapport à la profusion de ce qu'on vend, c'est que dalle. Hein. Après, ce qui est bizarre, c'est le gouvernement a pondu un projet d'arrêté où c'est le distributeur qui doit dire ou dénoncer le changement de conditionnement de l'industriel.
Mettre des étiquettes dans les rayons pour dire attention, c'est... ici il y a de la shrinkflation.
Enfin, on n'est plus dans l'épicerie à mettre des ardoises. Hein. Aujourd'hui c'est des étiquettes électroniques, donc ça lit des codes-barres et ça nous facilite pas le travail. On va
vous,
le faire.
Vous,
hein.
Vous n'appréciez pas du tout cette demande qui vous a été faite.
Non, mais c'est de la com. En fait, c'est à l'industriel d'assumer la responsabilité de ses conditionnements. Point barre. Hein. C'est... Mais par contre, je trouve que la transparence est nécessaire. C'est les industriels doivent dire.
Ils le disent. Mais ouais. Pas à vous de devoir dire avec une grosse flèche ici.
C'est à l'industriel de le faire.
Ouais. Est-ce qu'il acceptera de jouer le jeu?
Oui, je pense, oui, parce qu'il l'assume. Kiri assume le changement des 2 grammes en moins de son Kiri. Là. Il a changé sa recette.
Vous estimez en tout cas que ce n'est pas quelque chose qui vous concerne, enfin que vous n'en êtes que le dépositaire.
Mais vous savez.
Vous êtes quand même complice.
La shrinkflation, la réduction, elle se fait partout. Quoi. Et moi, ça me fait assez rire. Quand je vois mes amis, même journalistes, qui se rendent pas compte que pendant l'été, ils mettent moins de pages dans leurs journaux, dans les Libé, dans les Monde, etc. Et ils changent pas le prix. Dans les cantines, quand l'inflation a été trop forte, on a remplacé le lieu jaune par, du taco ou un lieu qui coûte moins cher. Tout le monde adapte ses menus. À l'inflation.
Et même vous, sur les marques distributeurs, vous faites aussi de la
shrinkflation? Non, là, je ne pense pas qu'on ait eu à le faire. On va dire, pour être sûr, c'est très marginal. J'en en ai pas connaissance. Mais par contre, vous voyez, si l'industriel, si la cantine dans ses menus, si le restaurant dans ses menus disent clairement les choses, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la transparence.
Merci, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu nous donner ces grandes tendances aussi pour 2024. Si on vous écoute bien, on comprend qu'on pourrait espérer 2,5 à 3% d'inflation sur les grands produits de consommation et peut-être même des rayons en baisse, comme Danone, si j'ai bien compris, dont vous espérez pouvoir tordre le bras.